pointless making comparisons really, because you tend to get tied down to one particular type of sound, and I think it's a lot easier for like the music papers to do something like that. If you like to get you boxed in, they can say, well, this group belongs to this category and this group belongs to this category. But I'd like to think that we don't belong to any category, you know, that the music we play sort of cuts across different things. So I think, you know, we never have any intention of saying, oh, we want to sound like this or we want to sound like that. It's just what comes out at the time. From back to white to red to white and back to red. From black to white to red to white and back to red. From black to white to red to white and back to red.
C'est une photo en noir et blanc d'un homme jeune éclairé en clair-obscur dont on ne voit que le visage en très gros plan, enfant sur fond noir, ce qui le fait ressembler à un acteur d'un film expressionniste ou bien d'un personnage d'un roman de Franz Kafka. Les yeux en l'air, le regard triste, un peu perdu, il tient dans sa main droite ce qui semble être un micro qui masque sa bouche. Sur la plupart des photos montrant le jeune homme, il apparaît comme avec un éclairage, une mise en scène similaire, parfois les yeux fermés, figés, tenant son micro comme il tiendrait à la vie, ou bien fixe, comme figé dans le temps, en train d'effectuer une sorte de danse qui ressemble à une transe. Toujours, le jeune homme apparaît presque comme une figure religieuse, littéralement une icône. Adolescent comme d'autres, beaucoup d'autres jeunes introvertis, j'ai trouvé refuge en partie dans le cinéma, la littérature et la musique, et je me suis vite identifié à certaines icônes, à certaines figures romanesques ou romantiques, symboles d'une jeunesse éternelle comme Rimbaud, Xavier Dolan, Jim Morrison, David Bowie, ou bien encore le jeune homme que je décrivais juste avant, à savoir Ian Curtis. Mort à seulement 23 ans, le chanteur de Joy Division est certainement le membre de ce groupe du nord de l'Angleterre qui a le plus fasciné les gens, et notamment les plus jeunes, en grande partie à cause même de sa mort prématurée par suicide le 18 mai 1980. Personnage hors du temps, il a traversé les époques, les décennies et a marqué plusieurs générations. Le cinéma aime d'ailleurs beaucoup ces figures d'artistes maudits et contribue à entretenir cette fascination dans l'imaginaire collectif. Pourtant, certains cinéastes font des pas de côté et nous montrent des artistes comme ce qu'ils sont au fond, bien souvent, des personnes ordinaires, et le processus artistique comme un travail et non comme un don de Dieu. Le film Showing Up de Kelly Richard, sorti en 2023, nous montre par exemple une artiste et ses problèmes du quotidien. Comme tout le monde, elle se prend la tête avec ses voisins, elle a des coupures d'eau chez elle, des problèmes d'argent, etc. Et peut-être que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, tout l'enjeu de notre époque, désacraliser les idoles, déconstruire les mythes, pour sortir de cette idée qu'un artiste est hors du monde, au-dessus de la société et du commun des mortels. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la dernière piste qui, aujourd'hui vous l'aurez compris, en cet automne, va vous emmener dans le nord de l'Angleterre, celle des années 70-80, celle de la banlieue de cette ville industrielle qu'est Manchester, née au monde de la musique moderne, pas mal de grands groupes comme les Smiths ou Oasis qui vient tout juste de se reformer, mais aussi, et ce sera le sujet du jour, Joy Division. Et pour parler de ce sujet tout au long de cette émission, j'ai convié Pierre-Frédéric Charpentier, auteur de Joy Division, session 1977-1980, publié aux excellentes éditions Le Mot et le Reste. Et ce qui m'a semblé intéressant avec ce livre, comme je le disais en introduction, c'est justement tout le côté, tout sous cet aspect démystification, tout ce travail que opéré par l'auteur de la démystification donc du groupe et de la figure de Ian Curtis à travers ce livre qui fait l'étude rigoureuse, piste par piste, des morceaux enregistrés par ce groupe tout au long de sa très courte carrière, car je le rappelle, Joy Division c'est seulement trois années de carrière et trois années donc au cours desquelles ils ont enregistré des morceaux qui pourtant malgré cette courte durée donc ont quand même marqué l'histoire de la musique. Pour l'heure, on va donc parler de Joy Division avec Pierre-Frédéric Charpentier, mais avant de écoutez donc cet entretien, cette interview qui a été faite à Toulouse il y a quelques mois. On va quand même se mettre avant cela un petit peu dans l'ambiance en écoutant un premier morceau de Joy Division, c'est Transmission. We'll be right back.
plusieurs sources qui sont extrêmement précieuses. Il y a Discogs avec évidemment tout ce qui est enregistré, y compris d'ailleurs des disques non officiels, avec aussi parfois le timing, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte qu'une version est plus longue qu'une autre. Alors le site n'est pas toujours ultra fiable, mais il est quand même fiable dans la grande majorité des cas. Et ça permet d'avoir déjà une banque de données remarquable et aussi avoir la possibilité de chercher des titres qu'on n'avait pas identifiés, mais dont on connaît l'existence. À côté de cela, il y a YouTube, évidemment, avec des références qui peuvent être utiles ici ou là. Très drôle quand c'est, par exemple, les fausses chansons de Joy Division. Donc là, on va aller écouter tout ça. Mais aussi très intéressante quand il y a des remixes qui semblent vraiment être, non pas des remixes de XYZ qui a voulu se faire plaisir avec son matériel de montage, mais des remixes dont tout semble indiquer, avec toutes les réserves qui vont avec, que ça peut vraiment bien correspondre à un mixage inédit de Joy Division. Notamment, il y a un cas que je cite dans le... même plusieurs de mixages inédits de Isolation ou de Love Will Tear Us Apart en particulier, dont certains ultérieurement d'ailleurs seront validés par des publications officielles. Et puis il y a des sites, alors là il y a un site qui s'appelle JoyDiv, et JoyDiv il est en ligne.
Je l'ai mentionné à la fin.
Oui, je l'ai mentionné à la fin parce que c'est vraiment quelque chose.
Il y en a deux, il y en a un sur New Order.
Mais j'ai surtout utilisé celui sur joydiv.org. Avec Joy Division Central, avec donc quelqu'un qui s'appelle Mark Price qui fait ce site-là. Et alors là, il y a énormément de choses. C'est une bible absolue. Et là, vraiment, Internet, j'aurais pas pu faire ce travail-là sans cet outil-là. C'est pas possible.
Quoi. Difficilement. Quoi.
Et là où j'ai eu de la chance aussi, c'est qu'il y a un double CD pirate qui existe, qui est un CD de l'ensemble des sessions conservées. De répétition, c'est pas vraiment des démos mais c'est des répétitions, et donc on a des morceaux des débuts dont certains durent quelques dizaines de secondes parce que la prise est interrompue, et puis on a quelques authentiques inédits, on a des morceaux qui n'existent pas ailleurs, on a donc quelques découvertes. Moi, en faisant le livre, j'ai découvert deux ou trois morceaux par exemple dont j'ignorais tout de Joy Division, comme Reaction par exemple. Alors là, celui-là j'ai jamais entendu parler. Il y avait aussi donc c'était le fameux qui a été repris par Peter Hook, Pictures in My Mind. Alors ça, c'est vraiment, si on cherche un inédit de Joy Division, un vrai de vrai, et qui est à peu près le seul à ma connaissance, donc il s'appelle Joy Division à cette époque-là, on est en 78. À quel moment de 78, difficile à dire, mais 78, c'est l'année creuse de Joy Division parce qu'ils enregistrent un disque qui finalement pour RCA ne marchera pas, voilà. Donc ils vont essayer de le réaliser, puis finalement ça leur plaît pas. Et donc il y a un titre qui va être enregistré à ce moment-là, c'est donc Pictures in My Mind. Et voilà le titre inédit de Joy Division. Si vraiment on en cherche un, c'est celui-là, et j'en vois pas beaucoup d'autres. Et c'est marrant parce que c'est un morceau qui est pile entre les deux époques. C'est plus du punk, mais c'est pas encore de la new wave à la Joy Division. C'est entre les deux, quoi. Et voilà l'inédit. Il n'y en a pas d'autres.
Mais de toute façon, il y a déjà beaucoup de morceaux inédits qui ont été édités sur les compilations.
Ouais, c'est ça. Et on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les seuls vrais inédits de Joy Division, d'après ce que j'en sais et ce que j'en ai lu, ce sont des mixages inédits, mais en aucun cas des titres inédits. C'est-à-dire des variantes. Alors ça peut être par exemple des variantes réenregistrées ou les mêmes instrumentations que les versions albums ou singles, mais des variantes avec un mixage qui n'est pas le même.
Et de toute façon, on n'en découvrira jamais d'autres, probablement. C'est ce que Peter Hook dit lui-même, parce que c'est pas parti pour.
Non, et puis c'est pour.
De toute façon, c'est totalement improbable, vu encore une fois le laps de temps très court.
C'est ça.
Voilà, mais c'est ce qui fait partie du mythe du groupe et de leur aura, du culte qu'il y a autour de Joy Division. Donc c'est.
Oui, et là on revient sur la même équation, c'est-à-dire qu'en un an et demi, ils ont déjà fait l'équivalent de 4 albums, si ce n'est même limite un peu plus, quoi. Tous les albums des années 70 ne durent pas 40 minutes, hein, loin de là. Et donc oui, ça semble assez improbable de découvrir d'autres choses nouvelles après ça, quoi. Why must we all grow up and we turn to flame? là où ça devient drôle, c'est qu'ils enregistrent cet album-là, qui est un des plus célèbres bootlegs de Joy Division, hein, l'album de RCA, qui a fait l'objet de pas mal de rééditions semi-pirates. Mm-hmm. Et dans la compilation dédiée à Joy Division, il y avait par exemple deux morceaux qui avaient été retenus. Mais là, en fait, il y en a, je crois, 11 dans mon souvenir. Il faudrait recompter. Mais c'est intéressant parce que c'est des morceaux à la fois un peu du début, mais qui sont retravaillés, enfin, qui ont une forme brute, pardon, mm-hmm. avant d'être retravaillés. Mm-hmm. Et puis, il y a des versions embryonnaires de... Transmission et par exemple aussi Shadowplay. Mm. Et alors Transmission, c'est vraiment la version la plus lente. Quand on sait à quel point la version de l'été 79 est marquée par une tension permanente et on sent que c'est vraiment sur le fil du rasoir, quand on entend la version RCA, on se dit qu'ils ont bien fait de pas sortir l'album, quoi, parce que c'est pas très réussi.
Ça contraste avec la liberté artistique qu'ils auront après avec Factory.
Et puis, d'une part, la liberté artistique, et puis les qualités de production de Martin Annett, qui là révolutionne le son. Quoi. C'est quelqu'un qui arrive à faire un véritable chef-d'œuvre. Le comique de situation, c'est que le groupe sera furieux d'entendre les résultats des mixages sur les deux albums.
Crois deux d'entre eux, enfin c'est assez partagé, je me semble que c'est Peter Hook et...
Peter Hook qui est furieux parce qu'on entend passer les guitares et en particulier sa basse sur les deux albums.
Ouais.
Et il est vexé comme un pou et en fait, même sur le premier il y a une forme de déception un peu partagée. Mm-hmm. Sur le deuxième effectivement c'est davantage tranché. Ouais. L'album est adoré mais pas par les membres du groupe, hein, c'est quand même le gag.
Mais ils reviendront quand même sur leur
oui.
Voilà,
et Hook a l'intelligence de dire, qui est un type plutôt drôle mais pas commode, hein, Peter Hook, il a l'intelligence de dire que bon, bah, c'était Annett qui avait raison, quoi. Moi je me souviens très bien des critiques à la sortie de Permanent, qui était la première compilation pas uniquement comme Substance avec les chansons hors album, mais une compilation qui prenait en compte et les chansons non album mais aussi les chansons des albums. Donc avec une sorte vraiment de sélection un peu équilibrée entre les différentes origines, les différentes provenances. Et je me souviens très bien d'une critique parue dans Les Inrecuptibles qui disait que le son a été d'une telle qualité qu'on aurait pu croire que l'album était sorti la veille. Quoi. Et on était 15 ans après. Quoi. Le son avait entre-temps subi... l'électro, la techno, la house music, tout ce que vous voulez, avait considérablement évolué, mais ce son de Martin Annett, effectivement, a une forme d'atemporalité.
D'atemporalité, oui. Tout à fait. Oui.
replace the fear or the thrill of the chase. These rituals showed up the door for our wanderings. Opened and shut, then slammed in our face.
Effectivement, Ian Curtis se suicide à la mi-mai 1980. On a une période de deuil qui va suivre et qui est très vivement ressentie par les membres du groupe. Mais ce qui est très étrange, c'est que ces obsèques ont lieu un vendredi et dès le lundi, ils sont à nouveau en studio. Et ils ont écrit leurs mémoires les uns et les autres. Et pour personne, au niveau des trois, il y a la remise en cause de faire de la musique. Donc ils continuent à faire de la musique. Vous imaginez l'ambiance un peu particulière parce qu'en fait, ils vont arriver... le lundi dans les studios de répétition et puis ils attendent celui qui ne viendra plus jamais quoi. Donc ils se retrouvent tous les trois et ils vont faire de la musique et il y a déjà des chansons qu'on va retrouver sur le premier album de New Order comme la première Dreams Never End qui est un riff apporté par Peter Hook le bassiste et qui est amené donc le surlendemain ou un jour après là 2-3 jours après les obsèques donc, de Ian Curtis, ça fait quand même un drôle d'effet quoi. Et donc en juin il y a le premier morceau enregistré donc de ce qui va suivre et qui deviendra plus tard New Order. Et dans toutes les histoires de Joy Division New Order, y compris dans le film Control, il y a en gros bah voilà, Ian Curtis meurt et hop on embraye sur New Order, point barre quoi. Et en fait non, c'est une sorte de mue qui va durer à peu près 6 mois, une demi-année où il y a des choses qui vont se mettre en place. Et alors il y a une tentative en juin avec un chanteur de l'écurie Factory et c'est le patron de Factory, Tony Wilson, qui dit ah ben, tu pourrais éventuellement faire une session avec un backing group et qui en l'occurrence s'avère être les trois survivants de Joy Division. Et les intentions de Wilson ne sont pas claires, d'autant moins qu'il n'a pas laissé de témoignage à ce sujet-là, il est décédé aujourd'hui. Et donc on ne sait pas trop s'il y a une sorte de fantasme de poursuivre Joy Division sur Ian Curtis, ce qui semble quand même assez improbable, ou en tout cas de tenter une sorte de greffe, et la greffe ne prendra pas. Donc il y a une tentative de faire un single quoi, avec deux titres, et juste l'un des deux titres effectivement va être enregistré. Et ça se passe pas très bien, le son est plat, et ce qui fait quand on l'écoute, ce titre-là, on a l'impression que on a une sorte de démo, parce que le mixeur, donc Martin Hannett, est complètement déstabilisé par la mort de Curtis, avec qui il avait des affinités particulières. Et à partir de là, il a une sorte de répugnance à travailler avec les trois survivants, pour lesquels il a vraiment très peu d'affinité. Et voilà, ils vont enregistrer un titre qui s'appelle Haystack, et qui est disponible en fait sur internet, sur différentes compiles, mais qui n'apparaît jamais sur aucune compile de Joy Division ou de New Order, même quand c'est les deux à la fois, parce que ça n'est plus du Joy Division et c'est pas encore du New Order. Et pourtant les trois membres survivants de Joy Division et futurs de New Order jouent dessus, et cette chanson existe, mais l'ambiance est tellement délétère que finalement la session pour le deuxième titre, dont on connaît le projet et le titre, le nom du titre, l'intitulé, ces sessions vont échouer, puisque Barney, le guitariste, quitte la session et l'interrompt définitivement. Et le titre enregistré, donc Haystack, va apparaître sur une compilation belge à l'automne 80, un peu comme ça, particulière, parce qu'en fait elle est présentée sous le seul nom du chanteur, Kevin Ewick. Il y a plus divers musiciens. Et sur une compilation par la suite, enfin ultérieure en CD, c'est présenté comme le premier titre de New Order, sauf que New Order ne s'appelle pas encore New Order au moment de juin 80. Ça va être ensuite, durant l'été, ils vont s'appeler The No Names, le groupe sans nom. Et puis ils vont partir en septembre 80 faire la fameuse tournée qu'aurait dû faire Joy Division au mois de mai-juin. La tournée américaine, précisons-le, celle à la veille de laquelle se suicide Ian Curtis. Et ils vont reprendre certaines dates, notamment à New York. Et ils vont rester sur la côte Est, là où la tournée de Joy Division devait être beaucoup plus ambitieuse, en allant en Californie en particulier. Et c'est durant cette tournée-là qu'ils vont enregistrer leur premier single, Ceremony, qui est la particularité d'être l'un des derniers titres de Joy Division, et d'ailleurs joué en live lors du fameux dernier concert à Birmingham au début du mois de mai.
Je profite justement pour rebondir sur Ceremony, qui a la particularité, donc comme vous dites, d'avoir été enregistré par Joy Division et composé avec. Moi, ce que je trouve fascinant avec ce morceau, c'est que les paroles ont été écrites par Ian Curtis, mais qu'on ne saura jamais exactement ce qu'il a écrit ou ce qu'il aurait pu écrire, puisque les paroles étaient sûrement encore en cours d'écriture et le processus n'était pas terminé. Il y a une aura qui entoure cette chanson qui est vraiment toute particulière par rapport à. De ce fait-là, mais aussi du fait que les seuls enregistrements dont on dispose avec la voix de Ian Curtis ont la particularité que la voix de Ian Curtis justement est totalement étouffée et on n'a aucune version en fait avec la voix de Ian Curtis. On a l'impression qu'il est déjà plus là en fait dans les enregistrements qui existent de cette chanson avec Ian Curtis.
Oui, là c'est une particularité de cette chanson, puisqu'en effet on a une version démo, mais dont le son est vraiment pas d'une très grande qualité, donc on a vraiment du mal à bien entendre ce qu'il chante. Et alors le coup de pas de chance, c'est que le 2 mai 1980, il y a donc le dernier concert de Joy Division à Birmingham, celui qui était enregistré avec un soundboard, donc le son est excellent, et c'est ce qui va donner la matière première de l'album live officiel Steel. Pas de chance, le son du micro du chanteur est éteint en fait, alors ça paraît à peine croyable, ce qui fait que tout le premier couplet est passé à la trappe. Et donc les membres survivants de Joy Division le diront et le rediront, on a écouté les bandes pour savoir ce qu'ils chantaient. Et en fait ils ne savent pas du tout ce qu'ils chantaient exactement, ce qui fait qu'il y a des paroles qui d'après le live après vont être reprises et identifiées, mais qui manquent certainement, et ce ne sont probablement pas les mêmes paroles qui sont reprises entre la version effectivement de Joy Division, enfin les versions démo et live de Joy Division, et les versions studio de New Order. On a un petit peu le même problème pour la phase B qui s'appelle In a Lonely Place, un morceau absolument sublime, splendide, etc. Et où là aussi on a des versions studio, mais où là en revanche l'audio est un peu meilleur, donc là on est à peu près convaincu que ce sont les mêmes paroles entre la version de Joy et celle de New Order. Et ça pose les problèmes de les paroles de In a Lonely Place posent problème parce qu'il y a dans le deuxième couplet une allusion à un pendu. Ce qui fait que dans le coffret Joy Division qui était sorti, le coffret 4 CD il y a quelques années maintenant, il y avait une version qui était interrompue après le premier couplet parce que sous-entendu il n'y avait plus de place sur le CD qui contenait 80 minutes, mais enfin comme par miracle on a vu la chanson complète ressortir sur internet quoi. Et il y a le fameux couplet sur le hangman, le pendu ou le bourreau plutôt en fait en l'occurrence, mais c'est une allusion hang évidemment à la pendaison, et vous imaginez bien qu'avec Curtis c'est quelque chose qui est très sensible, on va dire ça comme ça.
Bah, ça me pensait aussi chez Nirvana avec le morceau dans lequel il dit qu'il a pas de
oui.
I don't have a gun,
oui, oui.
Mais bon, enfin il y a plusieurs choses comme ça troublantes, notamment aussi le fait que le dernier il me semble que le dernier morceau qu'ils ont joué en concert et que Ian Curtis a chanté, c'est un morceau, je sais plus le titre, mais c'est dans lequel il dit Fade Away à la fin.
Ah oui, c'est Digital. Digital, qui est le dernier morceau et qui est d'ailleurs le premier enregistré avec Glass, mais c'est le single, enfin c'est le morceau un peu prédominant par rapport au deuxième, mixé par Martin Hannett, donc c'est le premier avec le son de Joy Division, le fameux. Et effectivement, c'est le morceau du rappel, le morceau unique du rappel du concert de Birmingham. Et ouais, Fade Away, qui est une formule répétée de manière incantatoire sur la disparition. Voilà. Et au-delà de cela, toutes les paroles de Closer, donc l'album, deuxième album, second album, parce qu'il n'y aura pas de troisième sous l'appellation de Joy Division, sont des paroles qui annoncent l'imminence, alors qui témoigne d'une dépression et qui annonce l'imminence d'une tragédie quoi.
Et ce qui est terrible, c'est que les membres de Joy Division, notamment Peter Hook, racontent qu'ils n'ont jamais prêté attention à cette époque-là aux paroles que Ian Curtis a écrites. Ouais.
Ça, Peter Hook le dit très clairement dans ses mémoires, et les autres n'infirment pas, ne s'opposent pas à cette version-là, et très clairement, oui, il y a l'idée que... Alors, que c'est quelque chose... ce que dit Peter Hook, et il l'a répété dans de nombreuses interviews, c'est qu'ils avaient l'impression que... Curtis chantait en quelque sorte si j'ose dire, les aventures de quelqu'un d'autre.
Un personnage.
Voilà, un personnage, exactement. Mais un personnage qui n'aurait pas été lui. Et en fait, ils se sont rués sur les textes de Closer après pour arriver à comprendre le pourquoi et du comment. Et c'est probablement, c'est même pas probablement, c'est après le drame qu'ils se plongent là-dedans et qu'ils découvrent l'ampleur de la prémonition. Et même un morceau relativement pop et assez entraînant comme Isolation, qui vraiment annonce New Order avec le côté proto-dance, on va dire, avec une mélodie entraînante, un tempo déjà semi-électronique, etc., qui est un morceau très intéressant au passage, parle de la dépression, et disant qu'il n'y arrive pas, quoi, qu'il n'y arrive plus. Quoi. Mother, I'm trying to believe me, I'm doing the best that I can. I'm ashamed of the person I am. Isolation. Isolation. Isolation.
s'étiez pas trompé en la reprenant, oui. En reprenant ce morceau. Oui. C'est un des premiers morceaux de Joy Division qu'ils ont repris, recommencé à jouer dans les années 90.
Et c'est vrai que les New Order ont décidé après de ne plus reprendre de morceaux de Joy Division, ce sur quoi ils ont en fait, c'est un principe sur lequel ils sont revenus assez vite dès 83-84, des morceaux de Joy Division qui reprennent mais de manière extrêmement, extrêmement ponctuelle et rare. Sachant que c'était pas gagné parce qu'ils abandonnaient un répertoire à peu près 3 ou 4 albums, parce qu'il y a les deux albums, plus les singles, plus des morceaux des débuts, etc. Donc c'est pas anodin quand même. Et en fait, on se dit, ah tiens, il y a une rupture, on passe en gros de She's Lost Control ou de Love With Us Apart à Blue Monday, et en fait, il y a des morceaux de Joy Division qui annoncent très clairement New Order, Isolation en est un. Les deux versions, en particulier la deuxième version de She's Lost Control, qui est beaucoup plus électro-gothique, annonce de manière un peu pesante, mais annonce néanmoins New Order, et même des rythmiques assez régulières comme Hard and Soul sur Closer sont là-dedans, quoi.
comme des morceaux de New Order font aussi
oui,
sont encore ancrés dans la musique de Joy Division, notamment le premier album, mais aussi plus tard sur d'autres albums.
Le premier album là, Movement, est clairement un album. Alors moi c'est une intuition que j'avais toujours eue, c'est que c'était un album qui était entre Joy Division et New Order, très peu référencé dans les rétrospectives de New Order, donc ça, déjà c'est un signe. Et en fait, ils ont fini par cracher le morceau. C'est-à-dire que Peter Hook, dans une interview, avait fini par dire c'est du Joy Division avec les musiciens de New Order. Donc là, tout le monde comprend, quoi. En disant que c'est à mi-chemin entre Joy Division et New Order, ça y est, ils ont fini par l'avouer, quoi. Et puis, dans ses mémoires, Bernard Summer dit une formule en disant qu'il détestait cet album. Ils le détestent tous, au passage, parce que c'était du Joy Division en plastique. Il y a cette formule-là. Et alors, ils détestent tout cet album. L'album est mal reçu à l'origine, mais plus les années passent et mieux il est considéré. En disant d'abord que c'est un véritable tour de force d'avoir, moins d'un an après, réussi à sortir un album comme celui-là. Et puis l'album est inégal, mais si vous voulez, quand on aime Joy Division, on considère qu'il y a deux albums et point barre, plus quelques compilations, etc., etc. Mais personne finalement n'écoute le premier album de New Order, alors qu'en fait, c'est, pour certains morceaux, d'aussi bonne qualité que Unknown Pleasures ou Closer. Il y a des morceaux comme le premier Dreams Never End, où malheureusement les vocales sont pas terribles, mais la mélodie est absolument imparable. Vous avez ICB, donc le fameux, les initiales, Ian Curtis Bird, autrement dit Ian Curtis est enterré, il est mort et bien mort. Et là, d'ailleurs celui-ci a la particularité, c'est le seul morceau de l'album qui a été répété par Joy Division. Ça, c'est bien dommage, on aimerait bien voir la bande, mais on l'a pas.
Oui, j'ai vu ça dans le livre et je ne savais pas si c'est avéré ou pas que le morceau a été répété par Joy Division, parce qu'il me semble qu'un membre l'a...
Voilà, c'est un membre du groupe qui l'a dit. Donc dans mon souvenir, c'est une interview de Hook, mais c'est un membre du groupe qui le dit en disant oui, de toute façon, celui-là, on l'avait répété à l'époque de Joy. Mais répéter ne veut pas dire répéter avec un magnéto dont on enclenche la touche enregistrée, hélas, malheureusement. C'est ce seul témoignage-là, mais qu'on peut supposer que sa mémoire est quand même assez précise et que donc s'il dit qu'il a répété, ils ont répété ICB à l'époque de Joy Division, voilà. C'était le cas. Les deux seuls morceaux qui jusqu'alors avaient ce statut-là, c'était Ceremony et In a Lonely Place. Voilà, c'était les deux. Et encore, In a Lonely Place, on a une longue session de répétition donc du printemps 80, mais le riff de guitare est trouvé par New Order. C'est-à-dire qu'il y a un riff de basse avec trois mesures, puis une quatrième qui finit par descendre et compléter le riff, et c'est New Order qui la trouve, et non pas évidemment les répétitions avec Joy du printemps précédent.
Thank you.
la chance d'avoir un frère aîné qui avait plusieurs années de plus que moi et qui écoutait beaucoup la musique anglo-saxonne à l'époque, où dans la France des années 70-80, en gros, c'était Michel Sardou et Mireille Mathieu. Alors, j'exagère à peine. Et grâce à mon frère et un de ses amis, dont le père était disquaire, on a entendu des choses qui venaient d'Angleterre, plus que des États-Unis d'ailleurs, mais enfin bon, c'était l'époque du punk et surtout de la new wave. Donc j'ai adoré en particulier les Clash, auxquels j'ai consacré un ouvrage. Et puis un peu plus tard, vers la fin des années 80, vers 87-88, j'étais dans des études avec un ami qui avait une cassette sur laquelle il y avait d'un côté Unknown Pleasures et de l'autre côté Closer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette musique de malade, quoi. Il faut vraiment être taré pour écouter des choses pareilles. Hein. Et puis je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment un truc que j'ai envie d'écouter? Et la réponse était oui. J'ai à chaque fois été marqué par des morceaux accessibles. She's Lost Control ou New Dawn Fades, très mélodique sur Unknown Pleasures, Isolation ou le très poignant Decades qui ferme l'album sur Closer, qui est vraiment une sorte de marche funèbre. Et en fait, je me suis dit, le reste est moins facilement accessible, mais je suis rentré dedans parce que ça m'intéressait, ça me plaisait, et je me suis dit que c'était vraiment des musiques qui vraiment exprimaient des choses complètement différentes de la musique mainstream. En fait, moi, je suis assez atterré par la pauvreté des référentiels courants, on va dire, mainstream de musique, où il y a toujours les quelques mêmes chansons qui sont diffusées, et en fait, il y a toute une richesse autre. Ce qui, d'ailleurs, au passage, vaut pour Joy Division. Joy Division, c'est pas que Love It Us Apart. Quand on écoute ce qu'ils ont fait, il y a des titres qui sont absolument exemplaires, même certains dont je n'ai pas encore parlé, comme These Days, par exemple, avec une espèce de rock un peu mélodique et dénaturé, qui annonce déjà aussi à sa manière la techno, qui annonce New Order, avec au milieu une espèce de solo de synthétiseur avec une note complètement distordue, la voix est complètement tordue, mais il y a une mélodie très rock, n'importe quel autre groupe aurait fait sa chanson. Et en fait, voilà.
Quand on l'entend, on est un peu déstabilisé, premièrement, parce qu'il y a des choses qu'on a l'habitude, qu'on reconnaît, qui sont familières, mais qui ne sont pas jouées de la même façon.
Exactement, et choses qu'ils ont faites comme ça sur une base classique, comme The Kill, ou bien They Walked In Line, etc., qui sont des chansons issues du punk. N'importe qui aurait fait les versions premières, et eux, ils ont fait des morceaux, ce mixage un peu polaire, quoi, distordu et tout, et These Days, bon, j'adore, quoi. Cette espèce de note de synthé qui tombe de nulle part et qui envahit l'espace, hein, on se dit, waouh, ouais, c'est très fort, quoi. Moi, j'ai fait des études d'histoire, après je suis devenu enseignant, mais la musique a toujours joué un rôle important dans ma vie et j'aimais bien. En fait, je trouvais ça intéressant de faire une histoire de groupe que j'aimais bien avec une approche un peu scientifique, pour lâcher un peu le mythe. Le mythe m'ennuie, quoi. Je veux dire, c'est si on commence à faire une histoire de Nirvana par rapport au fait que le chanteur s'est suicidé et que Kurt Cobain par-ci et Kurt Cobain par-là, c'est dommage, tellement il y a du talent à côté, quoi.
Et puis le risque, c'est de tomber justement dans la curiosité morbide et
Et puis de gommer le talent. Parce que quand on entend pour Nirvana, pour Joy Division ou combien d'autres, ce qui est véritablement conçu, créé et exécuté, on est quand même assez impressionné, quoi. Il y a des choses tout à fait étonnantes, quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage de s'en tenir juste à quelques morceaux, mais qu'il faut plonger les mains dans le cambouis. Et quand on a un groupe comme ça qui a une carrière assez brève, pourquoi ne pas se lancer dans une intégrale ?
We'll drag through it all this time.
puis alors j'aime beaucoup l'idée aussi d'un groupe qui se constitue, existe et puis qui finit par par se déliter quoi. Et là c'est le plus violent des délitements. Enfin là la comparaison avec Nirvana tient sous le sens. On est sur deux groupes. Soit le succès a été éclatant et a déjà eu lieu, et ça c'est le cas de Nirvana, soit le succès est sur le point de se déclencher, et c'est le cas de Joy Division, avec la fameuse tournée américaine, et puis qui explose en vol, quoi. Et là c'est
particulier parce qu'ils explosent même pas au moment de leur succès, ils explosent avant,
oui, c'est ça.
Avant le succès.
Oui, c'est ça. Et du coup, pour un historien, c'est intéressant parce qu'il y a des phénomènes de causalité. Et puis des phénomènes de réception. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va voir le t-shirt de Non Pleasures partout sur la planète ou dans des séries ou des films, etc. C'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle en fait simplement la culture populaire, quoi. La culture, c'est pas juste. Alors c'est aussi bien sûr des tableaux dans des musées. Il faut aller voir les tableaux dans les musées. Hein. C'est pas contradictoire, mais c'est aussi des artistes qui font de la chanson et que les gens écoutent en nombre, plus ou moins accessible. Et voilà, ça en fait partie.
Et voilà, on se quitte sur Isolation de Joy Division, morceau issu du deuxième et dernier album du groupe, Closer, sorti quelques temps après, enfin la même année, en 1980, que la mort de Ian Curtis, donc un album posthume après la mort de Ian Curtis. Et d'ailleurs, cet extrait qu'on a entendu donc, de ce morceau, c'est un extrait en live, comme vous l'aurez remarqué, à Birmingham en mai 1980, donc le mois de la mort de Ian Curtis, et donc le dernier concert du groupe. Un morceau, donc Isolation, où on sent déjà un petit peu la direction musicale qui était en train de prendre le groupe et que allait ensuite par la suite prendre le groupe, la formation qui s'est créée sur les cendres de Joy Division, à savoir New Order, nouveau groupe donc formé par les membres restants rescapés de Joy Division, à savoir Peter Hook, Bernard Sumner, Stephen Morris, rejoint par Gillian Gilbert au clavier. Mais ça, c'est une autre histoire, ce sera pour une prochaine émission, on en reparlera forcément. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, merci à Yanis pour la technique, et puis aussi, j'ai oublié de le remercier, merci à Pierre-Frédéric Charpentier pour l'interview et pour le temps qu'il m'a accordé. Juste après sur Radio Campus, vous retrouverez Carousel, pas juste après, à 17h Carousel, à 18h Let It Rock et à 19h The Cinema Show. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode mercredi prochain si vous nous écoutez en direct sur le 102.2 et quand vous le souhaitez en podcast. Bonne journée ou bonne soirée et à bientôt sur de nouvelles pistes.